texte que nous venons d'entendre est une parabole et nous le connaissons bien. Nous l'appelons souvent la parabole du fils prodigue. Ce n'est sûrement pas le titre idéal, car il ne reflète qu'une partie de l'histoire, vous l'avez bien entendu, et cette histoire n'est pas seulement au sujet du plus jeune fils. Notre histoire débute avec un père de famille. Et ce père dans l'histoire représente la figure de Dieu. Même si c'est vrai que pour les pères et les enfants ici présents, on ne peut faire autrement que de s'y identifier. Ce père a donc deux enfants et le plus jeune veut sa part d'héritage. Il a le droit, en tant que fils, à la part qui lui est réservée. Aujourd'hui, nous voyons bien qu'il gagne autre chose que de l'argent, peut-être quelque chose de bien plus important, la liberté. Nous le comprenons, surtout quand nous voyons comment continue le frère aîné dans sa vie, toujours dans sa famille, avec son père, dans la propriété. Et puis nous avons tous le désir, un jour ou l'autre, d'être libres. Le père donne donc à son fils, au plus jeune, sa liberté. Et il sait que malgré tout l'amour qu'il a pour lui, il ne peut que le laisser partir. Mais l'amour, c'est peut-être aussi cela. Je t'aime et je te laisse partir loin de moi. Le père donc donne, dans une générosité absurde, son argent et sa liberté à son fils. Ainsi, Dieu, généreux, parfois de façon absurde, nous donne la liberté. Celle de vivre sous son regard ou celle de vivre loin de lui. Celle d'aimer ou de ne pas aimer. Alors ce fils libéré va maintenant en profiter largement. Il s'éloigne, nous dit le texte, dans un pays lointain et gaspille tout son argent. Il prouve qu'il existe par lui-même, mais quand les difficultés arrivent, il croit ne plus être celui qu'il est, un fils. De toute façon, il voulait seulement être un homme de la ville. Et puis aussi longtemps qu'il a de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais quand l'argent vient à manquer, même les amis font de même. Alors ce fils ne renonce pas, même quand il est dans le besoin, il va trouver du travail. Il est embauché, nous dit le texte, pour nourrir les cochons. Il n'y a bien entendu pas de faux métier, mais vous vous en doutez, pour un garçon juif de bonne famille, nourrir des cochons n'était pas vraiment le job en or. Mais il a faim, et même la nourriture des animaux lui fait envie. Il s'en serait contenté, mais personne ne lui en propose. Et il constate. Il est traité plus durement ici que l'ouvrier là-bas, chez son père. Il passe de fils à flambeur, d'ouvrier à esclave. Et voilà son chemin de liberté. De fils à esclave. Combien de fils et de filles bien-aimés de Dieu reçoivent ce trésor que nous appelons la liberté ? Et le gaspille. Combien de fois nous-mêmes sommes incapables de vivre une relation de liberté avec ce Dieu qui nous a créés et qui nous aime? Nous mettons souvent bien vite Dieu de côté. Nous voulons vivre par nous-mêmes, faire nos preuves, nous en sortir tout seuls. Parfois nous sommes même esclaves de notre image, de notre succès ou de notre argent, de notre liberté. Alors ce fils, dans son enclos à cauchemars, se retourne sur lui-même. C'est ce que nous dit le texte. Et cette expression veut dire réfléchit, il fait le point, il rentre en lui-même pour essayer de voir qu'est-ce qui l'a mené ici. Il réalise qui il est, d'où il vient et ce qu'il a perdu. Il pense ne plus être digne d'être appelé fils. Alors il a envie de rentrer. Mais il pense bien ne pas revendiquer son statut, mais juste avoir à manger comme un des ouvriers. Il veut revenir en fils repenti. Alors certains peuvent dire, mais oui, était-il vraiment sincère, ou bien il avait tellement faim que de toute façon, il fallait bien qu'il rentre. Nous ne sommes pas là pour juger de sa sincérité. Peut-être qu'il était vraiment désolé, ou peut-être qu'il avait vraiment juste faim. En revanche, ce que nous pouvons reconnaître à ce fils, c'est sa clairvoyance. Il est très clair sur sa situation et sur ses besoins. Il est réaliste et pertinent. Nous-mêmes avons été créés pour être des fils et des filles libres du Dieu d'amour. Hommes et femmes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cela ne peut pas être changé. Mais parfois, nous croyons, à cause de nos paroles ou de nos actes, ne plus être dignes de ce statut de fils et de fille. Et pourtant, la bonne nouvelle de l'Évangile nous le redit, quoi que nous fassions, quoi que nous disions ou ayons dit, nous serons toujours et pour l'éternité des fils et des filles de notre Dieu vivant. Alors revenons sur le chemin de cette maison, quand le fils retourne vers son père. Il est encore loin, nous dit le texte, mais pourtant le père le voit déjà. Et il court vers son fils. Le vieil homme court. Et balayant toute dignité qui sied à un notable de ce temps, il se jette au cou de son fils. Alors il y a des interprétations très intéressantes de ce passage qui expliquent qu'en fait le père pleure et que c'est pour cette raison qu'il se jette à son cou pour cacher ses larmes. Et le fils cadet commence son discours. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Mais le père n'écoute pas. Il demande à son serviteur d'aller tuer le plus gros des veaux de la propriété. Et le père réclame des chaussures, une tunique et une bague. À l'époque en Israël, les esclaves se promenaient pieds nus, mais les fils avaient des chaussures. Les esclaves étaient habillés en haillons, mais les fils avaient des tuniques. Et la bague. La bague était un sceau, le symbole de l'autorité du père. Pour le père, le fils est toujours resté un fils. Révolté, bien entendu, mais un fils quand même, et en rien un esclave. Et il va le dire avec ces mots à lui, il était mort, et maintenant il est en vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et le texte nous parle d'une grande fête. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Parce que peut-être que nous aussi, parfois, nous sommes usés dans l'Église. Nous avons chanté tellement de cantiques, écouté tellement de prédications, qu'il nous est difficile de reconnaître encore la splendeur et l'incroyable étonnement de tout cela. Mais il n'y a pas d'enfant qui ne puisse revenir chez lui. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure pour les baptêmes. C'est cet amour de Dieu sur les enfants, indélébile, qui ne disparaîtra jamais. Il n'y a aucun esclavage si profond. Il n'y a aucun acte tellement odieux qui empêcheront Dieu d'accueillir son fils ou sa fille chez lui avec joie. Il n'y a personne qui ne puisse jamais se placer hors de l'amour de Dieu. Et bien entendu, quand nous parlons de cette façon, nous parlons de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Catholiques, protestants, évangéliques, anglicans, orthodoxes, tous les chrétiens, tous ceux qui croient que Jésus est venu pour eux, nous sommes tous sous l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un a déjà ressenti ce sentiment d'être vide et d'avoir besoin de partir, si quelqu'un a déjà connu ces contrées lointaines de l'esclavage, si quelqu'un peut chanter « J'étais perdu et aujourd'hui je suis retrouvé », eh bien pour vous, la prédication est terminée, vous pouvez sortir. Personne ne part. Je sais bien que cela ne se fait pas de partir en plein culte. Mais sûrement vous avez envie aussi d'en entendre un peu plus sur la suite de l'histoire, la deuxième partie, ce fils aîné que nous n'avons pas encore évoqué. J'éprouve pour ce fils aîné une tendre sympathie. Peut-être parce qu'il a le mauvais rôle, mais peut-être aussi parce qu'au jeu des ressemblances, il me ressemblerait un peu plus. Il n'est certes pas des plus avenants. Il ne veut même pas fêter le retour de son frère. Il le rejette et refuse le lien fraternel. Et ce frère qui ne l'est plus devient même l'objet de tous les fantasmes. Il a gaspillé son argent avec les filles, dit-il à son père, mais le texte ne parle pas des filles. Comment le sait-il, lui? Mais un frère aîné sait toujours ces choses-là. Pourtant, la pire des choses pour lui, c'est que lui-même s'est coupé de sa qualité de fils pour devenir esclave de son père. Et il dit à son père qui vient vers lui, « Toutes ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour toi. » Finalement, vous voyez, ces deux histoires de fils aboutissent à la même voie sans issue, esclave du père. L'un est allé loin, dépenser son argent, nourrir les cochons, mais l'autre est devenu esclave sans bouger, en travaillant bien sagement pour son père. Mais lui aussi, il est dans un pays lointain, triste, sombre, mais ce pays, il se l'est créé tout seul, lui-même, dans son cœur. Cela nous arrive aussi, nous continuons à venir au culte, à pratiquer, mais dans nos cœurs parfois, plus rien ne se passe et tout est gris. C'est difficile de dire pourquoi les choses se passent ainsi. Il est peut-être difficile pour les aînés d'accepter l'amour. Peut-être qu'un frère ou une sœur aînée imagine qu'il ne peut mériter l'amour du père qu'en travaillant et qu'en devenant esclave pour lui, qu'en faisant bonne figure. Mais nous nous trompons, bien entendu. Car nous nous efforçons de gagner cet amour qui nous est déjà donné. Nous nous obligeons à travailler comme des esclaves et transformons la maison du Père en un triste pays. Pourtant, l'Église, le monde entier est la maison du Dieu vivant et nous en sommes parfois, nous n'en serions que des esclaves. Mais nous avons bien été faits pour être libres, car nous avons été libérés en Jésus-Christ. Mais il nous est facile parfois de nous dire, si nous faisons un peu plus de ceci, de cela, peut-être que Dieu nous aimera un peu plus. Alors que cet amour est là, déjà depuis longtemps pour chacun de nous. Dans la vie, nous avons à travailler pour avoir ce que nous possédons, C'est vrai. C'est vrai en presque tout. Mais il y a une exception à la règle. Ce n'est pas valable pour l'amour. Et surtout pas pour l'amour de Dieu. Alors, pour lever tout doute, le Père aime bien sûr le fils aîné. Il sort de sa maison et lui demande d'entrer à la fête. « Fils, tu es avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Parfois, nous pensons que Dieu n'aime que les pécheurs repentis. Ce n'est pas vrai. Et voilà une autre bonne nouvelle. Avec toutes nos fautes, nos tentations de nous couper de nos sœurs et de nos frères, nos capacités à faire de ce monde un lieu d'esclavage, Dieu continue de nous aimer. Même nous, les parfois bons pratiquants, non-croyants. Alors ces baptêmes, Antoine et Clémence aujourd'hui et Jean il y a 4 ans à Paris, témoignent de cet amour de Dieu indestructible pour chacun de vous. À la fin du texte, nous ne saurons pas si le fils aîné a pu dépasser son blocage. L'histoire ne le dit pas. Elle est incomplète. Est-ce que le fils a réalisé et est-ce qu'il est entré à la fête? C'est peut-être à nous de le décider. C'est peut-être à nous d'écrire la fin de cette histoire. D'écrire le happy end si nous décidons de laisser notre fierté de côté et d'accepter l'amour du Père. Et ainsi de nous rendre à la fête. Au début du message, je vous disais qu'on appelait cette parabole la parabole du fils prodigue. Appelons-la plutôt la parabole du père qui attend. Car finalement, dans toute l'histoire, un père qui aime attend ce fils. Le fils cadet qui est parti loin et le fils aîné qui, en restant tout près de lui, s'est coupé de son amour. Alors, tout particulièrement ce matin, en ce jour d'engagement, pour vous, Charlotte et Bruno, pour vous, les parrains et marraines, vous, la famille et toute la communauté, nous pouvons nous le redire ensemble, Dieu nous attend, tous les matins de nos vies. Et c'est bien à nous de décider, car lui ne nous forcera pas, puisque nous sommes libres. Dieu nous attend. Décidons maintenant. Rejoignons la fête.